OK, on va continuer notre étude sur la dépression et les chrétiens. On était dans la leçon comment la définir et les différents symptômes. Alors, on avait regardé dans les 2 semaines, dans les 2 leçons précédentes, que quand quelqu'un fait une dépression, une des choses que les conseillers vont demander, c'est qu'ils vont examiner les domaines de leur vie. Alors, le premier domaine qu'une personne se devrait d'examiner, c'est sa situation générale dans sa vie. Alors, on avait regardé un petit peu les différents points. La deuxième chose qu'on se devrait d'examiner, c'est notre vie de pensée. On avait regardé que la vie de pensée comprend 10 facettes et que chacune des facettes se doit d'être examinée lorsque on fait. Alors, il y avait, on va les nommer rapidement sans les revoir, là. Il y avait les faux extrêmes, il y avait la fausse généralisation. Il y avait un faux filtre, il y avait une fausse transformation, il y avait la fausse lecture de la pensée d'autrui, la fausse prédiction de l'avenir, des fausses lentilles qu'on prédisait comme si on mettait des lunettes qui déformantes, et on avait aussi les faux raisonnements et les faux je devrais et la fausse responsabilité. Donc, autrement dit, prendre les responsabilités qui appartiennent aux autres et se les mettre sur notre dos à nous. On était rendu là. Et le troisième domaine, donc la situation générale, premier domaine, le deuxième domaine, notre vie de pensée, et le troisième domaine, nos sentiments. Alors, on se doit de constater que nos faux modèles de pensée vont entraîner des émotions qui vont être nuisibles. Alors, si on entretient des fausses pensées concernant nos problèmes et qu'on ne voit que le côté négatif des choses, et qu'on s'imagine que notre futur est sans espoir et que tout le monde nous haït, alors bien entendu, on va dégringoler rapidement et on va se sentir de plus en plus déprimé. Alors nos sentiments face à la vie de tous les jours et face à la vie spirituelle, bien sûr, vont se refléter partout. Alors si on a des mauvais sentiments, bien sûr que ça se reflète partout, hein. Alors on va regarder, par exemple, le Proverbe 23. Au verset 7, qui dit une chose importante, parce que ce n'est pas une invention de la psychologie moderne, la Bible elle-même le dit. Elle dit, car comme il l'estime en son âme, tel il est. Autrement dit, l'idée qu'on se fait nous-mêmes, si elle est fausse, si elle est tordue, ça va faire en sorte qu'on va se refléter, on va devenir tel qu'on s'imagine. Ça peut être mortel. Alors, on va examiner quelques symptômes émotionnels de la dépression. Et de la même manière qu'on a examiné nos pensées, on va examiner aussi honnêtement nos sentiments pour considérer si nos émotions sont aussi reliées à notre tendance à la dépression ou à notre maladie. Alors, on va prendre quelques exemples bibliques de véritables croyants qui ont expérimenté pour démontrer, qui ont expérimenté de telles choses pour démontrer que de tels sentiments sont compatibles avec le fait d'être un véritable croyant. Ça, c'est vraiment à remarquer parce que je vous l'ai déjà dit, je l'ai entendu, même de la bouche d'un pasteur, de croire qu'à cause qu'une personne fait une dépression, que tu remets en question le fait même que la personne est régénérée. Alors, quelque part, ça, on va voir par les exemples bibliques que être dépressif puis être croyant, c'est pas quelque chose qui est incompatible. Très important de réaliser cela. Alors, la première question qu'on se pose concernant les émotions, c'est est-ce qu'une personne se sent submergée par la tristesse? Submergée, on sait ce que ça veut dire. Tu te sens écrasé littéralement par la tristesse. Bien entendu, il nous arrive à tous d'être tristes de temps en temps. Je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas connu des moments dans sa vie où, à cause des problèmes qu'il vit ou de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'autres facteurs, qu'on est triste. Cependant, dans la dépression, cette tristesse-là va s'étaler sur de longues périodes, sur du long terme, autrement dit. Et il va en résulter des crises de larmes interminables et des sanglots inarrêtables. Ça, c'est vraiment un trait réel parce que la personne, on est en contact actuellement avec une personne qui vit ça, et c'est ce qu'il me disait, qu'elle ne vivait que ça. arrête pas de pleurer, c'est comme, c'est interminable, c'est à longueur de journée. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie dans ce temps-là, là, quelque part. Alors, il est possible que plus rien t'intéresse, des choses qui auparavant t'auraient passionné, visiter tes amis, recevoir de la parenté, toutes sortes de choses semblables, ou même des loisirs, ou aller prendre une marche, il n'y a plus rien qui t'intéresse, c'est comme si tout devenait noir, puis il n'y a plus rien, rien qui t'intéresse. Quand tu es rendu là, quelque part, il faut que tu examines pourquoi tu es triste. Alors, les exemples bibliques. On a l'exemple, bien entendu, de Job, mais lui, on peut savoir jusqu'à quel point, assez facilement, pourquoi il était triste. Alors, il perd tous ses biens, il perd sa santé. Alors, il n'a pas été éprouvé à peu près, là. Il a été éprouvé très, 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 très profondément. Alors, dans Job, au chapitre 3, les versets 20 à 22, Job dit: « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor. » En tout cas, quand tu es rendu dans un état où la tristesse est tellement écrasante ou que tu n'as plus juste le goût de mourir, comme il dit, il espère en la mort comme un trésor. Il court après, comme il la convoite comme un trésor. Et dans le verset 22, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Quand une personne est rendue dans cet état-là, que la seule chose qu'elle désire, c'est de mourir et de sortir de ce monde, puis ça devient une obsession, à quelque part, ça veut dire que ça ne va pas bien dans ta vie. Job, chapitre 6, versets 2 à 4. Job dit: « Oh, si l'on pesait ma douleur, et si l'on mettait en même temps mes calamités dans la balance. » Elle serait plus pesante que le sable des mers. Voilà pourquoi mes paroles sont outrées, car les flèches du Tout-Puissant sont sur moi. Mon âme en boit le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Quand il parle de pesanteur, le sable des mers, je suppose que si on peserait ça, ça a l'air un poids assez lourd. Alors il dit qu'il se sent comme si sa vie lui semble tellement lourde qu'il compare ça au sable des mers. Alors, on peut comprendre. Moi, j'ai déjà connu des moments dans ma vie où j'ai été dépressif un peu, mais je pense que je n'ai jamais été à des profondeurs semblables. Et là, c'est là qu'il nous fait dire que quand on a affaire à quelqu'un qui est dépressif, puis qui file aussi mal que ça, qu'on ne se doit pas lui arriver avec des arrangements niaiseux, comme on pourrait dire, là. Alors, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit à ces personnes-là, parce que bien souvent, on n'a aucune idée jusqu'à quel point ils souffrent. Parce que c'est quand on lit des versets comme ça que ça nous donne une petite idée à quel point, tu sais, ils n'ont plus le goût de rien, ils ont juste le goût de mourir, tout leur semble d'une lourdeur, et que tu vis ça à longueur d'année. Puis qu'en plus, tu vois que non seulement tu souffres toi-même, mais que tu fais souffrir ton entourage, il vient un temps que ça n'a plus de sens dans ta vie. Ta vie devient qu'elle n'a plus de sens. Job 16, versets 16 et 17. J'ai le visage tout enflammé à force de pleurer, et l'ombre de la mort est sur mes paupières. Quoiqu'il n'y ait point de crime dans mes mains et que ma prière soit pure. En plus, il se rend compte qu'il ne voit pas le lien pourquoi Dieu lui envoie ça, parce qu'il dit qu'il sent comme spirituellement qu'il n'a pas fait rien de croche, puis que sa prière est pure. Alors, le fait de recevoir ça, c'est encore plus, tu te demandes pourquoi Dieu permet ça. Et dans le livre de Job, quand tu le lis, je me souviens de l'avoir déjà prêché d'un coup, tu sais, de tout le livre au complet. Tu lis ça, puis tu t'arrives à comprendre que le gars, si Dieu lui avait pas révélé à la fin, là, sa vie aurait été vraiment pénible, plus que pénible. Et jusqu'à la fin, le Seigneur lui fait comprendre qu'il l'a fait traverser à cause qu'il voulait l'éprouver et qu'il savait qu'il en sortirait vainqueur. Mais à quelque part, le gars, quand il a traversé ça, là, c'était pas le temps d'aller. Ben, on le sait, ses amis, quand on lit le livre attentivement, ses amis, au lieu de l'encourager, se sont mis à l'accuser. Ah, ben, c'est parce qu'il y a du péché dans ta vie, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, puis il n'y avait rien de vrai. Alors, au lieu de l'aider, il empirait sa situation. Alors, je pense qu'il y a des leçons pour nous de faire attention avec les personnes qui sont dépressives, de ne pas empirer leur cas en amenant des solutions simplistes et qui ne les aident pas du tout, au contraire, qui parfois même peut empirer et augmenter la douleur. La deuxième question, on a le psaume 42, verset 3 et verset 7 aussi. Les larmes sont devenues mon pain jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Imagine, la question est là, c'est parce qu'il y a des gens autour de toi qui savent que tu es croyant, puis tu es dans un état dépressif comme ça, ils savent que tu pries, ils savent que tu intercèdes, puis il se passe rien. Fait que là, c'est ça qu'il dit. Et pendant qu'on me dit, où est ton Dieu? C'est comme s'il voulait dire que c'est la faute à Dieu. Pourquoi Dieu t'exauce pas? Il y a comme une question là-dedans qui doit être très douloureuse. Puis là, verset 6, il dit, mon Dieu, mon âme est abattue en moi. Donc la première question, c'est, vous sentez-vous submergé par la tristesse? Bien entendu, ces questions-là, à quelque part, je pense que quand les personnes vont en thérapie, comme une personne qu'on connaît qui est actuellement en thérapie, bien sûr que les personnes qui sont soignants, ils doivent essayer de faire parler la personne le plus possible. Parce qu'il y a sûrement des facteurs qui ont amené le développement de ça. Alors, ils essayent de les faire extérioriser, de les faire exprimer pourquoi ils vivent ces choses-là. La deuxième chose, le deuxième sentiment que les gens se doivent, dans ce temps-là, d'examiner, êtes-vous en colère contre Dieu et contre les autres? Alors, une caractéristique commune de la dépression, on dit que c'est spécial plutôt chez les hommes, plus que chez les femmes. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas. Et que l'homme serait plus irritable et il y aurait une irritabilité irrationnelle et sa colère serait bien ancrée. Alors, colère contre Dieu, colère contre les autres. Autrement dit, tu es en train d'accuser Dieu, que c'est de la faute à Dieu ce que tu vis. Puis c'est pas juste de la faute à Dieu, c'est la faute de tout le monde excepté à toi. À quelque part, c'est ça qu'ils vivent, là. Alors, quelques exemples bibliques. Jonas 4, verset 4 et verset 8 et 9. Non, c'est pas Jonas, c'est. Excusez-moi, c'est pas. C'est Jonas, c'est vraiment Jonas, là. C'est Jonas dans la baleine, comme on dit. Jonas, verset 4, chapitre 4, verset 4 et verset 8 et 9. On sait que le peuple était très méchant envers les Israélites. Extrêmement, quand tu lis un petit peu sur les commentaires, qu'est-ce qui se passait à l'époque de Jonas, là, qui voulait sauver Ninive, c'était des gens d'une cruauté. Quand tu lis tout ce qu'ils faisaient dans le temps des guerres, ils écorchaient vifs, toutes sortes d'affaires de même. C'est des affaires, là, c'est vraiment extraordinairement cruel. Et Dieu lui dit d'aller prêcher ce peuple-là dans le but de les emmener à la repentance et de les sauver. Lui, ce qu'il garde à la mémoire, c'est ce que ce peuple-là a fait vivre à Israël, puis il est pas capable de dire à Dieu, OK, si tu veux sauver, tu as le droit de sauver. Lui, il est tellement marqué par les horreurs que ce peuple-là avait faites à Israël, et il savait toutes ces choses-là, il n'arrive pas à accepter que Dieu veut lui accorder la grâce et la repentance. Et là, on sait qu'il s'était assis en dessous d'un ricin, tout ça. Et Dieu lui avait dit, on sait que le ricin va sécher dans la nuit. Et il dit dans Jonas 4, verset 4 et verset 8 et 9, « Et l'Éternel lui dit, fais-tu bien de t'irriter? » Versets 8 et 9, « Et il arriva que quand le soleil brilla, Dieu prépara un vent d'Orient étouffant. Et le soleil frappa sur la tête de Jonas et il défaillit et demanda la mort pour son âme et dit, mieux me vaut la mort que la vie. Et Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Et il dit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Alors on voit qu'il était tellement attristé par toute l'histoire que ce peuple avait fait vivre aux siens, qu'il est mieux mourir que de dire, Seigneur, accorde-leur la vie, pardonne-leur leurs péchés, etc., etc. Nombre, chapitre 20, versets 10 et 11. Là, on a l'exemple de Moïse. Moïse et Aaron réunirent la congrégation en face du rocher, et il leur dit, « Écoutez donc, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher. » Et Moïse leva la main et frappa le rocher de sa verge par deux fois, et l'eau sortit en abondance et l'assemblée but et leurs bêtes aussi. On sait que ça y a coûté cher de frapper le rocher deux fois alors que le Seigneur lui avait dit une fois. Mais c'est pour dire que, dans le fond, quand quelqu'un devient déprimé, lui, ce qu'il rendait déprimé, c'était l'état spirituel du peuple. Alors, et la troisième question, donc, êtes-vous en colère contre Dieu, êtes-vous en colère contre les autres? On a des exemples, on aurait pu multiplier les exemples, non seulement bibliques, mais je pense qu'on pourrait multiplier les exemples aussi dans la vie des gens qui vivent des dépressions. C'est la faute à Dieu ou c'est la faute aux autres? Troisième question, vous sentez-vous comme si votre vie était sans valeur? Autrement dit, tu souffres tellement que tu dis, je vois plus rien, puis ma vie n'a plus de sens, puis j'amène pas rien aux autres. Alors, il est possible que notre vie ait beaucoup de valeur pour les autres et plus particulièrement pour nos proches. Alors, on a très certainement de la valeur aux yeux du Seigneur. Cependant, notre vision peut être distordue au point où elle nous entraîne à nous dévaloriser et à nous sentir sans valeur. Souvent, c'est ça qui arrive aussi chez les personnes qui sont dépressives. Vous pouvez vous sentir un fardeau et une plaie pour votre entourage. Quand tu es rendu, tu dis, ben là, moi, là, tout ce que je leur amène, là, c'est juste de la souffrance, c'est juste de la douleur, c'est juste du trouble. Tu te sens une plaie, puis tu te sens un fardeau. Puis déjà, tu files pas bien. Et c'est pas une bonne recette gagnante. On a un peu des versets qui parlent de ça dans Job aussi, au chapitre 3. Les versets 3, aller jusqu'à 26. Périsse le... Il est tellement découragé, là, voici ce qu'il dit, Job. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un homme a été conçu. Que ce jour soit ténèbre, que Dieu ne le recherche pas d'en haut et que la lumière ne brille pas sur lui. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament, que les nuées demeurent sur lui, que les éclipses du jour l'épouvantent. Cette nuit, qu'une épaisse obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Voici que cette nuit soit stérile, qu'un autre cri de joie n'y arrive, qu'ils la chargent de leur imprécation, ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont habiles à faire lever le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule se couvrent de ténèbres, qu'elles attendent la lumière et qu'elles ne viennent point, et qu'elles ne soient point dans les paupières. Alors il est tellement rendu découragé que tout ce qu'il pense est juste. Il est en train quasiment de maudire le jour qui est venu au monde, tellement il ne file pas bien. Verset 10, « Puisqu'elle n'a pas fermé les portes du ventre qui m'a porté, ni dérobé le tourment à mes yeux. Pourquoi ne suis-je pas mort dès les entrailles de ma mère? Et que n'ai-je expiré quand je sortis de son ventre? Pourquoi des genoux m'ont-ils accueilli? Et pourquoi s'est-il trouvé des mamelles pour que je puisse téter? Car maintenant, je serai couché et tranquille. Je dormirai et ainsi j'aurai du repos avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des solitudes ou avec les chefs qui possèdent l'or, qui remplissent d'argent leur maison. Ou bien, comme l'avorton caché, comme les petits enfants qui n'ont pas vu la lumière, je n'existerai pas. Là, les méchants cessent de jeter le trouble et là se reposent ceux dont la force est épuisée. Là, tout ensemble, les captifs sont à l'aise. Ils n'entendent pas la voix de l'exacteur. Pourquoi donne-t-il de la lumière à celui qui est tourmenté et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? » Oui, il arrive tellement à être découragé que même la lumière, elle le fatigue, puis il y a l'amertume dans l'âme. Il dit « Pourquoi? » Il se pose la question. « À ceux qui attendent la mort sans qu'elle vienne, et la recherche plus que des trésors, à ceux qui se réjouissent jusqu'au transport et sont dans l'allégresse quand ils trouvent le sépulcre. » Hey, l'expression est forte, là. Ça dit des transports de joie et de l'allégresse quand tu trouves le sépulcre. misère, faut que tu sois rendu là. La joie quand tu vas trouver à tombe, pas sûr que j'ai jamais connu ça vraiment, là, quoi. Puis je souhaite pas non plus. À l'homme dont la chemin est caché et que Dieu renferme de toutes parts. Car à la vue de mon pain, mon gémissement arrive et mes rugissements se répandent comme l'eau. Quand j'appréhende une chose effrayante, elle m'atteint et ce que j'ai redouté m'arrive. Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos. Le trouble est arrivé. Alors, ça nous donne une idée à peu près de l'état d'esprit du monsieur. Alors, on a dans Jérémie aussi quelque chose de semblable que Jérémie a connu. Chapitre 20, versets 14 à 18. Lui non plus, il ne voit pas que le dos de la cuillère. Il dit, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère... Ma enfante ne soit point béni. Bizarre. Et il dit, maudit soit l'homme qui porta le joyeux message à mon père en disant, il t'est né un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a renversées sans s'en repentir. Qu'il entende des cris le matin et la clameur guerrière au temps de midi. Celui qui ne me fit pas mourir dès le sein maternel, en sorte que ma mère ait été mon sépulcre pour une gestation sans terme. » Autrement dit, il espérait que sa mère arrêtait une fausse couche, comme on dit. « Pourquoi donc suis-je sorti du sein maternel pour ne voir que tourment et que douleur, et pour que mes jours se consument dans la honte? » Et on va en faire une autre question. Quatrième, c'est « Sentez-vous de l'extrême anxiété ou de la panique? » Ou « Sentez-vous de l'extrême anxiété ou de la panique? » Les auteurs du livre « I'm not supposed to feel like this », qui veut dire « Je ne suis pas censé me sentir comme cela », expliquent ce qui arrive lorsqu'une personne est submergée par l'anxiété. Là, je ne vous lirai pas le bout en anglais, mais je l'ai juste traduit, une traduction libre. Il dit, en anxiété, la personne surestime la menace ou le danger auquel elle fait face et en même temps sous-estime ordinairement leur propre capacité à surmonter le problème. Deux choses, sous-estimer puis surestimer. Tu sous-estimes ta capacité à vivre le problème puis tu surestimes le danger potentiel que toi, tu crois qu'il est là, mais il n'est pas là. Alors, tu fais deux choses en même temps, ce qui donne un mauvais résultat. Alors, les attaques de panique sont vraiment le début rapide de l'anxiété extrême à propos d'un événement catastrophique imaginaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu avec quelqu'un qui vit une crise de panique. Moi, ça m'est arrivé. Et je peux dire que c'est très... Si c'est douloureux pour la personne qui le vit, bien entendu... Puis c'est douloureux pour la personne qui l'accompagne aussi. Parce que ça arrive comme de... Tchim, c'est subit, là. Et là, tu sens la personne, elle étouffe. Tu sais pas quoi faire avec ça. C'est pour ça, des fois, quand c'est bon de savoir un peu là-dedans, il faut au moins pas perdre les pédales. Puis quand on est chrétien, au moins de présenter le cas à Dieu. Puis d'essayer d'être aidant le plus intelligemment et le plus sagement possible. Mais c'est difficile, les cas de panique aussi. C'est pour ça que lui mettait les cas de panique et les cas de dépression en même temps. Alors souvent, les cas de panique d'anxiété comme ça, c'est quelque chose d'imaginaire. Je sais pourquoi, alors il faut que tu rentres dans la tête de la personne, faut que tu comprennes ce qui se passe dans sa tête. Alors elle dure seulement de 15 à 30 minutes. Ça, c'est vrai. Je l'ai vécu, là. Mais la personne veut ordinairement sortir de cette situation-là à n'importe quel prix. Il panique. C'est dur à voir parce que tu vois bien que ces personnes... C'est comme si tu le coupes à l'air, puis c'est difficile à voir. Puis j'imagine que la personne qui le vit doit souffrir encore bien plus que celui qui l'accompagne, bien entendu. Alors, on a des exemples bibliques aussi là-dedans. 1 Samuel, chapitre 21, versets 11 à 13. On a David, l'exemple du roi David. Parce qu'on se rapportait à penser que David, il était roi, il a écrit des psaumes, un homme très spirituel, Mais il a connu des moments dans sa vie où ça l'a apporté tellement de douleur qu'il a fait semblant d'être fou à un moment donné. Quand on regarde dans 1 Samuel 21, versets 11 à 13, Or, les serviteurs d'Achish, on sait que c'était le Philistin, et puis il est allé se réfugier chez les Philistins, c'était pas très bonne, idée. Or, les serviteurs d'Achish lui dirent, N'est-ce pas là David, le roi du pays? N'est-ce pas celui dont on disait en chantant dans les danses, Saül en a tué ses 1000 et David ses 10 000? Et David fut frappé de ces paroles et il eut une forte grande peur d'Achish, roi de Gath. Et il dissimula sa raison à leurs yeux et fit l'insensé entre leurs mains. Il faisait des marques sur ses portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Alors il faisait, ça devait, me semble, j'imagine la scène, là. Tapait ses portes, puis il voulait se faire montrer. Autrement dit, il cherchait à se déculpabiliser auprès du roi Achish pour pas que le roi Achish se souvienne. Ah oui, c'est lui qui a tué 10 000 Philistins, puis il vient se réfugier chez nous. Ça prend du gars qui a du front pas mal faire ça. Alors là, quand il a vu qu'il a pogné la chienne, comme on dit, puis plutôt que de se confier en Dieu, là, il a dit, ben, moi, je vais décider de me comporter comme un fou. Bon. On a aussi Matthieu. Au chapitre 8, versets 24 à 26, les disciples. Et il s'éleva tout à coup une grande tourmente sur la mer, en sorte que la barque était couverte par les flots. Mais il dormait. Quand il, c'est Jésus. Et ses disciples s'approchant le réveillèrent et lui dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Et s'étant levé, il parla avec autorité au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. J'imagine, des fois, c'est facile de blâmer les disciples comme ça, puis le Seigneur dit, nous, si on avait été dans la barque, puis il y avait eu une immense tempête comme ça, on aurait-tu été différent? Est-ce qu'on aurait eu assez de foi pour dire, ben là, si le Seigneur nous a emmenés ici, il va s'occuper de nous autres tantôt, on voit que, quand les problèmes de la vie arrivent, des fois avec des grosses vagues, comme on dit, là, des fois on manque de foi. On manque de foi au Seigneur. Alors on va arrêter là pour cette semaine, puis on continuera le reste la semaine.